Chapitre 6. Je savais d'expérience que tout de suite après certaines séparations traumatisantes, par exemple quitter les siens pour aller à la guerre ou perdre un membre de sa famille, ou se séparer d'un être aimé sans être certain de le revoir, un calme bizarre, presque une impression de soulagement, s'empare de soi, comme si le pire était passé et que l'on n'ait plus rien à craindre. C'est ce qui m'arriva en ce petit matin pluvieux où je quittais Aîné juste avant l'aube sur l'ancienne terre. Le kayak était petit et le Mississippi un grand fleuve. Tout d'abord, je pagayais dans l'obscurité avec une vigilance intense, proche de la peur, alimentée par l'adrénaline, afin de percevoir les obstacles imprévisibles, les bancs de sable et les épaves emportées par le courant violent. La rivière était très large à cet endroit, un bon kilomètre, supposais-je. Et ses rives avaient dû être inondées car des arbres morts révélaient l'endroit où se trouvaient les anciennes berges, l'eau ayant repoussé de plusieurs centaines de mètres les limites du fleuve dont les hautes falaises avaient arrêté l'expansion. Une heure environ après que je me fus séparé de mon ami, le jour apparut lentement, montrant d'abord à ma gauche la ligne de séparation entre les nuages gris et la falaise à pic, puis jetant une lumière froide sur la rivière elle-même. J'avais eu raison de trembler dans le noir. Des écueils et les longs doigts des bancs de sable obstruaient le lit du fleuve. De gros arbres emportés par le courant, dont les racines évoquaient des têtes d'hydres, me dépassaient en brisant tout sur leur passage avec la force de béliers géants. Je choisis ce que j'espérais être le courant le plus clément, et pagayant vigoureusement pour demeurer à l'écart des débris flottants, je tentais de jouir du lever du soleil. Toute la matinée, je me dirigeais vers le sud sans voir aucun signe d'habitation humaine sur l'une et l'autre berge, sauf, passant comme l'éclair, d'anciens bâtiments autrefois blancs, noyés parmi les arbres morts et les eaux saumâtres de l'ex-rive ouest, qui était devenu un marécage, stagnant au pied des falaises. Deux fois je débarquais sur une île, une fois pour faire mes besoins, et la seconde pour ranger ce qu'il y avait dans le petit sac à dos qui constituait mon unique bagage. Pendant ce second arrêt sur une berge sablonneuse, tard dans la matinée, sous un soleil qui me réchauffait, je m'assis sur un rondin et mangeai les sandwichs à la viande froide et à la moutarde qu'Aîné m'avait préparés pendant la nuit. J'avais emporté deux gourdes pleines d'eau, l'une attachée à ma ceinture, l'autre qui devait rester dans mon sac, et je bus avec modération, ne sachant pas si l'eau du Mississippi était potable, ni à quel moment je pourrais me réapprovisionner. C'était l'après-midi lorsque je vis devant moi la cité et l'arche. Dans le passé, une seconde rivière s'était jetée à ma droite dans le Mississippi, élargissant considérablement le lit du fleuve. J'étais certain que ce devait être le Missouri, et quand je questionnais le père Sock, la mémoire du vaisseau confirma mon intuition. Peu après, j'aperçus l'arche. Ce portail d'Istran semblait différent de ceux que nous avions franchis dans notre voyage vers l'ancienne terre. Plus large, plus ancien, plus terne, plus zébré de rouille. Autrefois, il s'élevait sans doute au sec, sur la rive ouest du fleuve, mais à présent le métal de l'arche surgissait des eaux à quelques centaines de mètres de la berge. Des restes squelettiques de bâtiments noyés, des gratte-ciel bas des temps pré-égyriens, si j'en croyais ma sensibilité architecturale nouvellement informée, jaillissaient aussi des eaux stagnantes. « Saint-Louis, » me dit le père Sock Bracelet lorsque je questionnais l'IA du vaisseau. « Détruite avant les tribulations, abandonnée avant la grande erreur de 08. »« Détruite ?» dis-je en dirigeant le kayak vers l'arche géante du portail et voyant pour la première fois que la rive ouest, derrière lui, se recourbait en un demi-cercle parfait qui formait un lac peu profond. De vieux arbres bordaient la courbe prononcée du rivage. Un cratère d'impact, pensais-je. Mais je ne pouvais dire si c'était dû à un météore, une bombe, une fusion provoquée par une source d'énergie ou quelque autre événement violent. « Détruite comment ?» dis-je au père Sock. « Aucune information, » répondit le bracelet. « Cependant, j'ai une entrée sur l'arche qui est devant nous. »«
C'est un portail d'Istrance, n'est-ce pas ?»
demandai-je en luttant contre le courant très fort qui me séparait de l'arche. « Pas à l'origine, » répondit la voix douce à mon poignet. « Les dimensions et l'orientation de l'artefact coïncident avec la taille et la position de la Gateway Arch, Une bizarrerie architecturale édifiée à Saint-Louis à l'époque de l'État-nation des États-Unis d'Amérique, au milieu du XXe siècle. Elle était censée symboliser l'expansion occidentale des pionniers proto-nationalistes hégémoniques d'ascendance européenne qui émigrèrent ici et s'efforcèrent de remplacer les indigènes nord-américains avant de les enfermer dans des réserves.
« Les Indiens !»
dis-je haletant tandis que je faisais traverser au kayak secoué le dernier courant rétif et nous alignait sur l'arche immense. Il y avait eu une heure ou deux de somptueuse lumière, mais le vent froid et les nuages gris étaient maintenant de retour. Des gouttes de pluie crépitaient sur la coque en fibre de verre et fouettaient le haut des vagues. Le courant emportait mon embarcation vers le centre de l'arche et je posais un instant ma pagaie en faisant attention de ne pas heurter le mystérieux bouton rouge.
Alors, on a construit ce portail d'Istrance pour honorer ceux qui ont tué les Indiens ?
Dis-je, et je me penchais en appuyant les coudes sur la coque. La Gateway Arch d'origine n'avait pas de fonction d'Istrance, fit remarquer d'un air compassé la voix du vaisseau.
A-t-elle survécu au désastre qui a causé ceci ?
Demandai-je en pointant la pagaie vers le lac du cratère d'impact et son assortiment de bâtiments inondés.
Pas d'informations,
répondit le père Soc.
Et tu ne sais pas si c'est un portail d'Istrance,
dis-je en haletant de nouveau car je repagayais dur. L'arche se dressait menaçante devant nous. Elle mesurait au moins 100 mètres à son point culminant. La lumière hivernale du soleil luisait faiblement sur ses flancs rouillés.
Non,
répliqua la mémoire du vaisseau. La présence d'un d'Istrance sur l'ancienne Terre n'est citée nulle part. Bien sûr, c'était une chose impossible. L'ancienne Terre s'était effondrée dans le trou noir de la Grande Erreur, où avaient été kidnappés par les lions, les tigres et les ours. Au moins un siècle et demi avant que le technocentre livrât à l'hégémonie la technologie d'Istrance. Pourtant, un portail d'Istrance petit mais très efficace enjambait cette rivière de l'ouest de la Pennsylvanie, un ruisseau en fait, où nous nous étions transférés, aîné et moi, 4 ans auparavant, depuis le Bosquet de Dieu. Et j'en avais vu d'autres lors de mes voyages.
« Eh bien, »
dis-je plus à moi-même qu'à l'IA idiote du père Soc,
« si ce n'en est pas un, nous continuerons à descendre le fleuve. Aînée savait ce qu'elle faisait en nous envoyant ici. »
Je n'en étais pas si sûr que cela. Il n'y avait pas de scintillement d'Istrance révélateur sous cette arche, et je ne voyais briller ni étoile ni soleil de l'autre côté. Juste le ciel qui s'obscurcissait et la ligne noire de la forêt sur la rive opposée du lac. Je me penchai en arrière et levai les yeux vers l'arche, choqué de voir que des caissons manquaient, laissant à nu les montants métalliques. Le kayak était déjà passé dessous et il n'y avait eu aucune transition, pas de brusque changement de lumière, de gravité, pas d'odeur étrangère. Cette chose n'était rien de plus qu'un vieux monstre architectural en ruine qui, par hasard, ressemblait à un... Tout changea. Une seconde avant, le kayak et moi dansions sur le Mississippi balayé par le vent, en route vers le lac du cratère peu profond qui avait été la ville de Saint-Louis, et brusquement, ce fut la nuit. Le petit bateau en fibre de verre et moi glissions sur un étroit canal entre des bâtiments éclairés, sous une voûte sombre s'élevant à 500 mètres au moins au-dessus de ma tête.
« Jésus,
chuchotai-je. Un ancien messie, dit le père Soc. Les religions fondées sur son prétendu enseignement sont le christianisme zen, le catholicisme ancien et moderne et des sectes protestantes comme
« Ferme-la,
dis-je.
Mode enfant sage. »
Cet ordre obligeait le père Soc à ne parler que lorsqu'on lui adressait la parole. D'autres que moi circulaient sur le canal si c'en était un. Des douzaines de canots, de minuscules bateaux à voile et d'autres kayaks remontaient ou descendaient le courant. Sur les berges et les esplanades, sur les passerelles aériennes qui s'entrecroisaient au-dessus des eaux bien éclairées, des centaines d'autres êtres humains marchaient à deux ou par petits groupes. Des individus trapus, en vêtements colorés, faisaient du jogging en solitaire. Je sentis le poids de la gravité sur les muscles de mes bras lorsque j'essayais de soulever la pagaie. Au moins moitié plus forte que celle de la Terre, telle fut mon impression immédiate. Et je levai lentement la tête pour regarder ces centaines, ces milliers de fenêtres et de tourelles, de passages, de balcons et de lieux d'atterrissage éclairés auxquels s'ajoutaient d'autres lumières, car des trains argentés passaient en bourdonnant doucement dans les tubes transparents qui enjambaient la rivière, des VEM fendaient l'air, des plateformes antigraves et des ferries aériens transportaient des gens d'un côté à l'autre de cet incroyable canyon. Et je compris. L'Usus. Ce devait être l'Usus. J'avais déjà rencontré des Lusiens, de riches chasseurs venus sur Hyperion pour tuer des canards ou des demi-gires, des joueurs hors monde encore plus riches traînant dans les casinos des neuf queues où je travaillais comme videur, et même quelques expatriés dans notre unité de la garde nationale, certainement des criminels fuyant la justice de la Pax. Ils avaient tous le même physique adapté à la forte gravité que ces joggeurs petits, râblés, aux muscles proéminents, qui haletaient sur les berges et les esplanades comme des machines à vapeur primitives mais puissantes. Personne ne semblait prêter attention à mon kayak ou à ma personne. Cela me surprit. J'avais dû me matérialiser sous le portail d'Istrance, maintenant derrière moi, comme si je sortais de nulle part. Je me retournai et compris pourquoi mon apparition était passée inaperçue. Le portail, simple élément de l'hégémonie disparue et de l'ex-fleuve Tétis, était ancien, bien sûr, et avait été intégré aux constructions de la cité ruche. Des plateformes et des passerelles cloutaient et surplombaient le mince portail, si bien que la partie du canal ou de la rivière qui passait en dessous était la seule zone visible de cette cité sous globe à se trouver plongée dans une ombre épaisse. Tandis que je regardais derrière moi, un petit bateau à moteur jaillit de la pénombre, réfléchit les feux des lampes à vapeur de sodium suspendues au-dessus des berges, et parut surgir brusquement du néant, comme je venais de le faire. Transformé en bibendum par mon sweater et mon duvet, enserré par la jupe en nylon du cockpit de mon petit kayak, je semblais probablement aussi courtois que les Lusiens que je voyais autour de moi. Un homme et une femme en ski jet me saluèrent lorsqu'ils me croisèrent dans un sifflement. Je leur rendis leur salut. « Jésus !» chuchotai-je de nouveau, plus comme une prière que comme un blasphème. Cette fois, le père Soc ne fit aucun commentaire. Je vais m'interrompre un moment. À ce point du récit, je suis tenté, en dépit du gaz de cyanure qui peut à tout moment pénétrer en sifflant dans la boîte à chat de Schrödinger et m'incite donc à me hâter, de décrire dans les moindres détails mon odyssée interplanétaire. Pour la première fois depuis qu'Aîné et moi nous étions retrouvés en sécurité sur l'ancienne Terre, 4 ans auparavant, je reprenais ma vie d'aventure. Pendant la trentaine d'heures standard qui s'était écoulée depuis qu'Aîné m'avait annoncé d'un air péremptoire mon départ imminent par distance, j'avais naturellement supposé que le voyage ressemblerait à notre précédent trajet du vecteur Renaissance à l'ancienne Terre, une traversée de paysages vides ou abandonnés comme sur Hébron, la Nouvelle Mecque, le Bosquet de Dieu, ou dépourvus de noms comme la jungle dans laquelle nous avions laissé le vaisseau du consul. Sur l'une des rares planètes où nous avions rencontré des habitants, le hasard voulut que ce fût Mare Infinitus, un monde océan à peine peuplé, le contact s'était révélé catastrophique pour les deux parties concernées. J'avais fait sauter la plus grande partie de leur plateforme flottante, ils m'avaient capturé, puis attaqué à l'arme blanche, au fusil à fléchette et presque noyé. J'y avais perdu certaines des choses les plus précieuses que nous avions emmenées, dont l'ancien tapis Hawking transmis de main en main depuis les jours de la légende de Ciri et Mérine, et le revolver calibre 45, tout aussi ancien, qui, du moins je me plaisais à l'imaginer, aurait appartenu à la mère d'Aîné, Brown Lamia. Mais pendant la plus grande partie du voyage, le fleuve Tétis nous avait fait traverser des paysages vides, sinistrement vides, sur Hébron et la Nouvelle Mecque, comme si quelque chose de terrible avait emporté la population, nous laissant, Aîné, Abétique et moi, abandonnés à nos propres moyens. Pas ici. L'Usus foisonnait de vie. Pour la première fois, je compris pourquoi on appelait ruches ces cités alvéolées planétaires. Traversant de concert des régions inhabitées, la petite fille, l'androïde et moi n'avions pu compter que sur notre propre équipement. Maintenant, seul et essentiellement armé de mon petit kayak, je me retrouvais en train de saluer la police de la Pax et les prêtres lusiens régénérés qui se promenaient dans le coin. Le canal en béton chemisé de plastique, qui faisait plus de 30 mètres de large, ne comptait pas d'affluent et n'offrait aucune cachette. Il y avait bien des ombres sous les ponts et les passages couverts, comme sous le portail d'Istrance en aval, mais la circulation fluviale traversait ces endroits sombres en un flot constant. Aucun endroit où se dissimuler. Pour la première fois, je me dis que c'était de la folie de voyager par distance. Mes vêtements déplacés attireraient l'attention sur moi dès que je mettrais le pied hors du kayak. Mon type physique n'était pas le bon. Mon accent de natif d'Hyperion paraîtrait étrange. Je n'avais ni argent, ni puce d'identité, ni permis de VEM, ni carte de crédit, ni papier paroissiaux de la Pax, ni lieu de résidence. Arrêtant le kayak une minute à proximité d'un bistrot au bord de l'eau, l'odeur de steak grillé ou d'un aliment équivalent amené par les ventilateurs me fit saliver, la senteur piquante de la levure, portée par la même brise, m'évoqua les cuves d'une brasserie et de la bière froide, je compris que je serais certainement arrêté 2 minutes après avoir pénétré dans un endroit de ce type. Des gens se rendaient de monde en monde dans la Pax, surtout des millionnaires, des hommes d'affaires et des aventuriers qui acceptaient de passer des mois en sommeil cryotechnique, qui risquaient des années de déficit temporel en voyageant par les moyens de transport du Mercantilus d'étoile en étoile, plein de la certitude cruciforme que le travail, le foyer et la famille attendraient qu'ils reviennent dans leur univers chrétien stable. Mais c'était rare et personne ne voyageait entre les planètes sans argent et sans la permission de la Pax de le faire. 2 minutes après mon entrée dans ce café, ou ce bar, ou ce restaurant, quelqu'un appellerait probablement les flics du quartier ou la police militaire de la Pax. Leur première fouille révélerait que je ne portais pas de croix, que j'étais un païen dans un univers de chrétiens régénérés. L'estomac gargouillant, les bras épuisés par la fatigue et la gravité élevée, les yeux larmoyants du manque de sommeil et d'une profonde frustration, je passais la langue sur mes lèvres, m'éloignais du café et continuais à descendre la rivière en espérant que le prochain distance ne serait pas trop éloigné. Là, je résiste à la tentation de raconter toutes les visions merveilleuses, les sons étonnants, les êtres étranges que j'aperçus ou rencontrais par hasard. Je n'étais jamais allé sur un monde aussi colonisé, aussi peuplé, aussi intérieur que l'Usus, et j'aurais aisément passé un mois à explorer la ruche affairée que j'entrevoyais de la rivière canalisée dans le béton. Après 6 heures de descente du canal lusien, je passais sous l'arche bienvenue et émergeais sur Joie, un monde fiévreux, surpeuplé, dont je ne savais presque rien et que je n'aurais pu identifier sans les fichiers de navigation du Persoc. Là, je pus enfin dormir, le kayak caché dans un égout de 5 mètres de haut, moi enroulé sous des vrilles en fibres de plastique industrielle prises dans un grillage. Sur Joie, je dormis une nuit et une journée standard, mais ici les jours duraient 39 heures et je ne trouvais l'arche suivante, à moins de 5 clics en aval, que le soir de mon arrivée. Je me transférais de nouveau. De Joie ensoleillée, peuplée de citoyens de la Pax en étoffe complexe d'arlequin et cape aux brillantes couleurs, la rivière m'emporta sur Nevermore et ses villages maussades taillés dans le roc, ses châteaux de pierre perchés sur les flancs d'un canyon, sous un ciel perpétuellement morne. Le soir sur Nevermore, des comètes striaient les cieux et des créatures volantes semblables à des corbeaux, plus chauves-souris géantes qu'oiseaux, rasaient la rivière en faisant claquer leurs ailes parcheminées, masquant de leur corps noir la lueur des astres vagabonds. Je fus hélé par des commis voyageurs en radeau et rendis leur salut tout en me dirigeant vers une étendue d'eau blanche qui faillit retourner mon kayak et mit à rude épreuve mon savoir-faire de pagayeur débutant. Les sirènes des châteaux aux yeux d'aigle de Nevermore ululaient tandis que je pagayais frénétiquement pour franchir le portail d'Istran suivant, et je me retrouvais, étouffant de chaleur sous le soleil d'un petit monde désertique affairé qui, m'apprit le Persoc, s'appelait Vitus Grey Balianus B. Je n'en avais jamais entendu parler, pas même dans les vieux atlas de l'hégémonie que Grand Dame conservait dans sa caravane, où je me glissais dès que je le pouvais, pour étudier à la lueur de la baguette luminescente. Le fleuve Tétis nous avait menés à l'ancienne Terre par des planètes désertiques, Aîné, Abétique et moi, mais il s'était agi des mondes étrangement vides d'Hébron et de la Nouvelle Mecque, déserts dépourvus de vie, cités abandonnées. Ici, sur Vitus Grey Balianus B, des maisons en adobe se blottissaient sur la rive, et tous les clics je tombais sur une levée ou une écluse où la plus grande partie de l'eau était détournée pour irriguer les champs verts qui longeaient le cours de la rivière. Heureusement, celle-ci servait aussi de rue principale et de grande route, et j'avais émergé de l'ombre de l'ancien portail d'Istrance dans le sillage d'une grosse péniche, Aussi continuai-je à pagayer sournoisement au cœur de la circulation trépidante. Yole, radeau, chaland, remorqueur, hors-bord électrique, péniche aménagée, et même de temps à autre une barge de lévitation EM qui se déplaçait à 3 ou 4 mètres au-dessus de l'eau. Ici, la gravité était basse, probablement moins des 2/3 de celle de l'ancienne Terre ou d'Hyperion. Et parfois j'avais l'impression que mes coups de pagaie allaient soulever le kayak et me dresser hors de l'eau. Mais la lumière, celle du soleil, pesait sur moi comme une paume géante et suante. En une demi-heure, j'épuisais le fond de ma seconde gourde d'eau et compris qu'il fallait que je me trouve quelque chose à boire. On pourrait croire que sur un monde à gravité moindre, les habitants seraient de grandes perches, l'antithèse verticale des barriques lusiennes. Mais la plupart des hommes, des femmes et des enfants que je voyais sur les petites routes encombrées et les chemins de halage semblaient presque aussi petits et trapus que les lusiens. Leurs vêtements étaient aussi colorés que les habits bigarrés des résidents de Joie, mais ici, chaque personne portait une seule teinte brillante. Je vis des combinaisons collantes cramoisies, des manteaux et des capes d'un bleu intense, des toges et des costumes d'un émeraude aveuglant avec des foulards verts et des chapeaux recherchés, des traînes fluides de mousseline jaune et des turbans orange fluo. Je m'aperçus que les portes et les volets des maisons, des boutiques et des auberges en adobe étaient aussi peints de couleurs différentes et je me demandais ce que cela pouvait signifier. Des castes? Une préférence politique? Un statut social ou économique? Une sorte de signe de parenté? Quoi que ce fût, je ne pourrais pas me fondre dans la foule quand j'aborderais pour trouver à boire, vêtu comme je l'étais en kaki terne et coton défraîchi. Mais c'était soit débarquer, soit mourir de soif. Tout de suite après l'une des nombreuses écluses automatisées, je me dirigeais vers le quai, attachais mon kayak dansant pendant qu'une lourde péniche surgissait derrière moi, et m'avançais vers une structure circulaire en bois et en adobe qui, je l'espérais, était un puits artésien. J'avais vu des femmes en peignoir safran emporter de là quelque chose qui pouvait être une cruche d'eau. Aussi étais-je presque certain du bien fondé de mon hypothèse. Ce que je craignais, c'était qu'en tirant moi-même de l'eau, je puisse violer une loi, une règle de caste, un commandement religieux ou une coutume locale. Je n'avais décelé aucune présence visible de la Pâque sur le chemin de halage ou les petites routes, ni le noir d'un prêtre, ni le rouge et noir de l'uniforme d'un policier. Mais cela ne voulait pas dire grand-chose. Il y avait quelques mondes très rares, même dans les confins où le Persoc avait situé Vitus Grey Balianus B, où la Pax ne maintenait pas une présence constante. J'avais, en douce, tiré de mon sac la gaine de mon couteau de chasse que je glissais dans ma poche arrière, sous ma veste, mais mon seul plan était de fanfaronner avec cette arme afin de pouvoir rejoindre mon kayak, au cas où une foule s'attrouperait entre lui et moi. Mais si la police de la Pax se pointait avec des étourdisseurs ou des fusils à fléchettes, mon voyage serait terminé. Il prendrait bientôt fin, au moins temporairement, pour des raisons fort différentes, mais je n'en reçus aucun avertissement, sauf le mal de dos qui m'accablait depuis mon séjour sur l'Usus, lorsque je m'avançais en hésitant vers le puits, si c'en était un. C'était bien un puits. Personne ne réagit à ma grande taille ou à mes couleurs ternes. Personne, pas même les enfants vêtus de rouge éclatant ou de bleu vif qui s'arrêtèrent dans le jeu pour me jeter un coup d'œil, puis s'empressèrent de détourner les yeux, ne s'interposa ou ne parut remarquer l'étranger pourtant bien visible. Tandis que je buvais à longs traits, puis remplissais mes deux gourdes, j'eus l'impression, venant d'une source d'information que je ne connaissais pas, que les habitants de Vitus Grey Balianus B, ou au moins ceux de cette bourgade sur ce tronçon de la voie d'Istrance du fleuve Tétis abandonné depuis longtemps, étaient simplement trop polis pour me montrer du doigt, me regarder fixement ou me poser des questions sur ma présence. J'eus le sentiment à ce moment, tandis que je rebouchais la seconde bouteille et me retournais pour rejoindre le kayak, qu'un étranger mutant à trois têtes, ou pour rester dans le royaume d'un bizarre plus réel, que le Gritch en personne aurait pu s'abreuver à ce puits artésien par cet agréable après-midi du désert sans être accosté ou questionné par les citoyens de cette planète. J'avais fait 3 pas sur le chemin poussiéreux quand la douleur me frappa. D'abord je me pliais en deux, je suffoquais, incapable de reprendre ma respiration, puis je tombais à genoux et enfin sur le côté. je me recroquevillais de souffrance. J'aurais crié si la terrible douleur m'en avait accordé le souffle et l'énergie. Elle ne le fit pas. Suffoquant comme un poisson de rivière jeté sur cette rive sablonneuse, je me pelotonnais en position fœtale et me laissais emporter par les vagues de cette atroce souffrance. Je devrais dire ici que la douleur ne m'était pas totalement étrangère. Quand j'étais dans la garde nationale, une étude menée par l'armée d'Hyperion révéla que la plupart des conscrits envoyés dans le sud pour combattre les rebelles de la griffe de glace avaient peu de résistance à la douleur. Les habitants des cités septentrionales d'Aquila et des villes plus fantasques des Neuf Queues avaient rarement, sinon jamais, éprouvé une douleur qu'ils ne pouvaient bannir en avalant une pilule ou en composant le numéro d'un autochirurgien ou en se rendant en voiture au plus proche d'Oc en boîte. En tant que berger et garçon de la campagne, j'avais un peu plus d'expérience qu'eux en ce domaine. Des coupures avec un couteau, un pied cassé par un bride de somme qui m'avait marché dessus, des meurtrissures et des contusions dues à des chutes dans la campagne rocailleuse, une commotion cérébrale le jour où je m'étais battu à un rendez-vous de caravane, des furoncles à force de monter à cheval, et même des lèvres enflées et un œil au beurre noir après des bagarres de feu de camp lors de la convocation des hommes. Sur le champ de glace, j'avais été blessé 3 fois. 2 fois par de la mitraille après que des mines blanches eurent tué des copains, 1 fois par le coup à longue portée d'un tireur isolé. Cette dernière blessure fut assez sérieuse pour provoquer l'intervention d'un prêtre qui se contenta de me demander d'accepter le cruciforme avant qu'il ne soit trop tard. Mais je n'avais jamais ressenti une douleur pareille. Gémissant, suffoquant, je soulevais mon poignet et demandais au Persoc de m'expliquer ce qui m'arrivait. Les citoyens polis, forcés de prêter enfin attention à l'étranger, reculèrent devant cette apparition qui s'effondrait par terre. Le Persoc ne répondit pas. Entre les vagues insupportables de la douleur, je répétais ma question. Toujours pas de réponse. Je me souvins alors que j'avais mis ce satané truc sur le mode enfant bien élevé. Je l'appelais par son nom et répétais ma requête. Puis j'activais ma fonction de biosenseur en sommeil à Chandimion. J'ignorais que l'appareil avait une fonction de biosenseur en sommeil ou pas. J'ai mis un bruit grossier d'assentiment et me repliais encore plus en position fœtale. On aurait dit que quelqu'un me poignardait dans le dos et retournait la lame plantée dans la plaie. La douleur me traversait comme le courant dans un fil électrique brûlant. Je vomis dans la poussière. Une belle femme en peignoir d'un blanc immaculé recula d'un autre pas et leva sa sandale blanche.
« Qu'est-ce que c'est ? »
haletai-je de nouveau dans un bref intervalle entre les élancements.
« Qu'est-ce qui se passe ? »
demandai-je au Persoc. Avec mon autre main, je me tâtais le dos à la recherche de sang ou de plaies. Je m'attendais à trouver une flèche ou une lance, mais ne trouvais rien.
« Vous êtes en état de choc, à Chandimion, » me dit la petite partie lobotomisée de l'IA du vaisseau du consul. La tension artérielle, la résistance de la peau, le rythme cardiaque et le taux d'atropine en témoignent.
« Pourquoi ?»
répétai-je en tirant cet unique mot d'un long gémissement, car la douleur irradiait de mon dos à travers tout mon corps. J'eus de nouveau un haut le cœur. Mon estomac était vide, mais les vomissements persistèrent. Les citoyens vêtus de manière rutilante restaient à distance, ne se rapprochaient pas pour former une foule curieuse, ne commettaient pas l'impolitesse de me regarder fixement ou de murmurer, mais s'attardaient visiblement.
« Qu'est-ce qui ne va pas ? »
haletai-je de nouveau en essayant de chuchoter ces mots au Persoc bracelet.
« Qu'est-ce qui pourrait causer ça ?»«
Une balle de fusil, » répondit la voix de plus en plus ténue. Un coup de couteau, une épée, une flèche, un trait de sarbacane, une blessure causée par une arme à énergie, une lance, un laser, un poignard oméga, une lame à vibration, des fléchettes concentrées au même endroit, peut-être une longue aiguille fine introduite dans le rein, le foie et la rate. Tout en me tordant de douleur, je tâtais de nouveau mon dos, puis ôtai la gaine de mon couteau. En dessous, la veste et la chemise n'étaient ni brûlées ni déchirées. Aucun objet pointu ne dépassait de ma chair. La douleur se fraya de nouveau un chemin brûlant en moi et je me mis à gémir. Je n'avais pas gémi quand le tireur isolé m'avait percé de sa lance sur le champ de glace ou quand le bride de mon oncle Vania m'avait cassé le pied.
J'avais du mal à former des pensées complètes, mais cela donnait à peu près ceci. Les indigènes de Vitus Grey Balianus B, je ne sais comment, un pouvoir mental, un poison, l'eau, des rayons invisibles, me punissent d'avoir... Je renonçais à cet effort et gémis de nouveau. Quelqu'un en jupe ou toge bleu vif et sandales immaculées, les orteils peints en bleu, s'approcha de moi.
« Excusez-moi, monsieur, »
dit une voix douce en vieil anglais du Retz avec un fort accent.
« Mais seriez-vous en difficulté ?»« Seriez-vous en difficulté ?»
répondis-je, ponctuant ce bruit d'un haut le cœur sans résultat.
« Puis-je vous aider ?»
insista la même voix douce au-dessus de la toge bleue.
« Puis-je vous aider ?»
Oh.
Répliquai-je en me pâmant à moitié de douleur. Des points noirs dansèrent devant mes yeux, jusqu'à ce que je ne puisse plus voir les sandales ou les orteils bleus, mais la terrible douleur ne voulait pas me lâcher. Il était impossible de fuir dans l'inconscience. J'entendis les peignoirs et les toges bruire autour de moi. Je humais des odeurs de parfum, d'eau de Cologne, de savon. Je sentis des mains vigoureuses se poser sur mes bras, mes jambes, mes flancs. Les tentatives qu'elles firent pour me soulever envoyèrent le fil de fer brûlant remonter tout le long de mon dos et pénétrer dans mon crâne. Chapitre 7. On avait ordonné au grand inquisiteur d'apparaître avec son adjoint à l'audience papale de 8 heures. À 7h53, son VEM noir se présenta à l'entrée du poste de contrôle de la Via del Belvedere. L'inquisiteur et son adjoint, le père Farrell, franchirent des portails de détection et furent soumis à des senseurs manuels, d'abord au poste de contrôle des gardes suisses, puis à celui de la garde palatine, et enfin à celui de la nouvelle garde noble. Le cardinal John Domenico Mustafa, grand inquisiteur, lança le plus subtil des coups d'œil à son adjoint lorsqu'ils franchirent le dernier poste. La garde noble semblait constituée de jumeaux clonés, des hommes et des femmes minces aux cheveux raides et ternes, au teint cireux, au regard mort. Mustapha savait que 1000 ans auparavant, les gardes suisses étaient des mercenaires payés pour servir le pape, que la garde palatine était constituée de Romains de naissance formant la garde d'honneur de sa sainteté lors de ses apparitions en public, et que la garde noble était choisie au sein de l'aristocratie qui considérait cela comme une récompense papale due à sa loyauté. Aujourd'hui, les gardes suisses constituaient la troupe d'élite de l'armée de métier de la flotte, la palatine avait été réinstituée 1 an seulement auparavant par le pape Jules XIV, et Urbain XVI semblait maintenant remettre sa sécurité personnelle entre les mains de cette étrange confrérie de la nouvelle garde noble. Le grand inquisiteur savait que les jumeaux de cette garde noble étaient de véritables clones, premier prototype de la Légion secrète en train de se constituer, avant-garde d'une nouvelle force armée requise par le pape et son secrétaire d'État, conçue par le centre. L'inquisiteur avait payé cette information très cher et savait que sa situation, sinon sa vie, serait en danger si l'Urdus Ami ou sa sainteté découvraient qu'il était au courant. Passé les derniers postes de garde, pendant que le père Farrell défroissait sa soutane des effets de la fouille, Mustapha écarta d'un geste le fonctionnaire papal qui s'offrait à les emmener au premier étage. Le cardinal ouvrit lui-même la porte de l'ancien ascenseur qui les transporterait jusqu'aux appartements du pape. Cette voie secrète partait en fait de la cave. Le Vatican reconstruit ayant été édifié sur une colline, l'entrée de la Via del Belvedere se trouvait en dessous du rez-de-chaussée normal. Tandis qu'il s'élevait dans la cage grinçante, le père Farrell tripotait nerveusement son scripteur et son classeur. Le grand inquisiteur, lui, se détendit lorsqu'ils eurent dépassé la cour de San Damaso. Ils arrivèrent au premier étage où se trouvaient les appartements fabuleux des Borgia et la chapelle Sixtine. En craquant et gémissant, ils laissèrent derrière eux les appartements d'État, la grande salle du consistoire, la bibliothèque, les salles d'audience et les beaux salons ornés des fresques de Raphaël. Ils s'arrêtèrent au second, et les portes de la cage s'ouvrirent. Le cardinal Lourdussamy et son adjoint, Monsignor Luca Oddi, les saluèrent d'un signe de tête en souriant.
« Domenico, » dit Lourdussamy en prenant la main du grand inquisiteur et en la serrant très fort.
« Simon Augustino, »
répondit le grand inquisiteur avec un salut. Le secrétaire d'État allait donc assister à cette réunion. C'était bien ce que Mustapha avait soupçonné et craint. En sortant de l'ascenseur et en cheminant avec les autres vers les appartements privés du pape, le grand inquisiteur jeta un coup d'œil sur le couloir menant au bureau du secrétariat d'État et, pour la 10 000e fois, envia l'accès au pape dont disposait cet homme. Le pontife rejoignit le groupe dans la grande galerie, brillamment éclairée, qui reliait les bureaux du secrétariat d'État aux deux étages constituant le domaine privé de sa sainteté. Le pape, généralement grave, était tout souriant. Il portait une ample soutane blanche, un zucchetto blanc sur la tête et une large fascia blanche autour de la taille. Ses chaussures blanches ne faisaient sur le sol carrelé qu'un infime bruit de chuchotement.
« Ah, Domenico !»
dit le pape Urbain XVI en tendant sa main baguée à baiser.
« Simon, comme c'est gentil d'être venu !»
Le père Farel et Monsignor Oddi attendirent, genoux en terre, que le Saint-Père se tourna vers eux afin de baiser l'anneau de Saint-Pierre. Sa sainteté paraissait en bonne santé, pensa le grand inquisiteur, plus jeune et plus reposé qu'avant sa mort la plus récente. Le grand front et les yeux brûlants n'avaient pas changé, mais Mustapha se dit qu'il y avait, ce matin, quelque chose à la fois de plus impatient et de plus satisfait dans l'apparence du pape ressuscité.
« Nous allions justement faire notre promenade matinale dans le jardin. Voulez-vous vous joindre à nous ?»
Les quatre hommes hochèrent la tête et adoptèrent le pas rapide du pape qui parcourut toute la galerie, puis gravit les larges marches polies menant au toit. Les assistants personnels de sa sainteté gardaient leur distance, les gardes suisses postés à l'entrée du jardin se mirent au garde-à-vous, le regard fixe. Lourdussamy et le grand inquisiteur marchaient derrière le Saint-Père, tandis que Monsignor Oddi et le père Farel restaient à deux pas en arrière. Les jardins du pape consistaient en un labyrinthe de treillis fleuris, de fontaines coulant goutte à goutte, de haies parfaitement taillées, et d'arbres en taupières venus des 300 mondes de la Pax, d'allées de pierre et d'arbustes bizarres en fleurs. Un champ de confinement de force 10, transparent de ce côté, opaque aux observateurs extérieurs, recouvrait tout et offrait à la fois intimité et protection. Le ciel de Passem était, ce matin-là, d'un bleu radieux, sans nuages.
L'un de vous se souvient-il de l'époque où, ici, commença sa sainteté dont la soutane bruissait tandis qu'il parcourait l'allée d'un pas vif, le ciel était jaune.
Le cardinal Lourdussamy émit un grondement profond qui, de sa part, pouvait passer pour un gloussement.
Oh oui, je me souviens que le ciel était d'un jaune malsain, l'air irrespirable, qu'il faisait froid tout le temps et que la pluie ne cessait jamais. Passem était un monde précaire, unique raison pour laquelle l'ancienne hégémonie a permis à l'Église de s'y établir.
Le pape Urbain XVI fit un mince sourire et montra le ciel bleu et la chaude lumière du soleil.
Il y a eu quelques améliorations depuis l'époque où nous accomplissions ici notre service, n'est-ce pas, Simon Augustino ?
Les deux cardinaux rirent doucement. Ils avaient fait un rapide tour du toit et maintenant sa sainteté se dirigeait vers le centre du jardin. Passant de pierre en pierre sur l'étroit sentier, les deux cardinaux et leurs adjoints suivaient à la queue leu-leu le pontife en robe blanche. Brusquement, sa sainteté s'arrêta et se retourna. Une fontaine murmurait derrière elle.
Avez-vous appris que le corps expéditionnaire de l'amiral Aldicacti s'était translaté au-delà du grand mur ?
Demanda le Saint-Père d'un ton d'où toute plaisanterie avait disparu. Les deux cardinaux répondirent d'un hochement de tête.
Ce n'est que la première d'une longue série d'incursions de ce type, dit-il. Nous ne l'espérons pas, nous ne le prédisons pas, nous le savons.
Le chef du Saint-Office, le secrétaire d'État et leurs adjoints attendirent.
Le pape les regarda, chacun à leur tour.
« Cet après-midi, mes amis, nous avons l'intention de nous rendre au Castel Gandolfo. »
Le grand inquisiteur se retint de lever les yeux, sachant que l'on ne pouvait pas voir l'astéroïde papal dans la journée. Il savait que le pontife utilisait le « nous » royal et ne l'invitait pas du tout à venir en compagnie de l'Ourdus Ami.
« Où nous nous livrerons durant plusieurs jours à la prière et à la méditation, afin de rédiger notre prochaine encyclique, » poursuivit le pape. Elle s'intitulera « Redemptor Hominis » et sera le plus important document émis par nous depuis que nous accomplissons notre office de berger de notre Sainte Mère l'Église. »
Le grand inquisiteur inclina la tête. « Le Rédempteur de l'humanité, » pensa-t-il. Il peut s'agir de n'importe quoi. Quand le cardinal Mustapha leva les yeux, sa sainteté souriait comme si elle lisait dans ses pensées.
« Ce texte traitera de l'obligation sacrée que nous avons de garder l'humanité humaine, Domenico. Il développera, clarifiera et élargira ce que l'on appelle notre encyclique de la croisade. Il définira le souhait de notre Seigneur, non, son commandement, que le genre humain maintienne la forme et le visage de l'homme et ne soit pas profané par une mutation ou une mutilation délibérée.
C'est la solution finale au problème des extros,
murmura le cardinal Ourdus Ami. Sa sainteté hocha la tête d'un air impatient.
Cela est plus encore. Redemptor Hominis envisagera le rôle que l'Église va jouer dans le futur, mes chers amis. En un sens, elle dessinera un schéma directeur pour le prochain millénaire.
Mère de miséricorde, pensa le grand inquisiteur.
La Pax a été un instrument utile, poursuivit le Saint-Père. Mais dans les jours, les mois et les années à venir, nous allons préparer le moyen pour l'Église de devenir plus active dans la vie quotidienne de tous les chrétiens.
Maîtriser plus étroitement les mondes de la Pax, traduisit le grand inquisiteur, les yeux toujours baissés dans une écoute attentive des paroles du pape. Mais comment? Par quel mécanisme? Urbain XVI sourit de nouveau. Le cardinal Mustapha remarqua, et non pour la première fois, que les sourires du Saint-Père ne s'étendaient jamais à ses yeux là et pleins de peine.
« À la sortie de l'encyclique, » dit sa sainteté, vous pourrez percevoir plus clairement le rôle que nous destinons au Saint-Office, à nos services diplomatiques, à des entités et des institutions insuffisamment utilisées comme l'Opus Dei, la Commission Pontificale Justice et Paix et le Corps Unum. »
Le grand inquisiteur essaya de dissimuler sa surprise. Le Corps Unum. La Commission Pontificale. Officiellement connu sous le nom de Pontificum Concilium Cor Unum de Humana et Christiana Progressione Fovenda, n'était depuis des siècles qu'un comité dépourvu de tout pouvoir. Mustapha dut réfléchir pour se souvenir du nom de son président. Le cardinal Dunoyer, croyait-il. Une petite bureaucrate du Vatican. Une vieille femme qui, jusqu'à maintenant, n'avait tenu aucun rôle dans la politique vaticane. Bon sang, qu'est-ce qui se passe ?
Nous vivons une époque intéressante, dit l'Ourdus Ami.
Certes,
répliqua le grand inquisiteur en se remémorant une ancienne malédiction chinoise qui s'appliquait à cette situation. Le pape se remit en marche et ses compagnons se hâtèrent de le rattraper. Une brise traversa le champ de confinement et agita les fleurs dorées d'un Saint-Chêne sculpté.
Notre nouvelle encyclique traitera aussi du problème grandissant que pose l'usure dans notre nouvel âge, dit le Saint-Père.
Le grand inquisiteur faillit s'arrêter pile et dut faire un demi-pas rapide pour garder le rythme. Il lui fallut un grand effort pour conserver une expression neutre. Il sentit le choc qu'éprouvait le père Farrel derrière lui.
L'usure, pensa le grand inquisiteur. Depuis des siècles, l'Église a imposé une régulation stricte du commerce de la Pax et du Mercantilus. Un retour au capitalisme pur n'était ni désiré, ni permis. Mais son pouvoir ne s'exerçait que d'une main légère.
est-ce qu'on va intensifier le contrôle de l'Église sur toute la vie politique et économique? Est-ce que Jules, Urbain, va abolir l'autonomie civile de la Pax et les libertés commerciales du Mercantilus? Où est la place de l'armée dans tout cela? Sa sainteté s'arrêta près d'un bel arbuste aux fleurs blanches et aux feuilles d'un bleu vif.
« Notre gentiane illyrienne se porte bien ici, »
dit-il d'une voix douce. « C'est un présent de Posque, l'archevêque de Galabia Pescasus. » L'usure, pensait le grand inquisiteur plongé dans une confusion d'esprit touchant au délire. Une peine d'excommunication, la perte du cruciforme, pour cause de violation du commerce strict et des contrôles du profit, une intervention directe du Vatican. Mère du Christ. Mais ce n'est pas pour cela que je vous ai demandé de venir, dit le pape Urbain XVI. Simon Augustino, auriez-vous l'amabilité de partager avec le cardinal Mustapha les informations inquiétantes que vous avez reçues hier? Ils connaissent l'existence de nos bio-espions, pensa Mustapha pris de panique. Son cœur battait la chamade. Ils sont au courant de la mise en place des agents, de la tentative faite par le Saint-Office pour contacter directement le centre. Ils savent que nous avons sondé les cardinaux avant l'élection. Ils savent tout. Il garda l'expression qui convenait. Alerte, intéressé, alarmé seulement au niveau professionnel, par l'utilisation que le Saint-Père faisait du mot « inquiétante ». La grande et grosse masse du cardinal Lourdussamy se redressa fièrement. Le profond grondement de ses paroles semblait venir de la poitrine ou du ventre de cet homme et non de sa bouche. Derrière lui, la silhouette de Monseigneur Oddi rappela à Mustapha les épouvantails des chants de sa jeunesse sur le monde agricole de petite renaissance.
« Le Gritsch a reparu »,
commença le cardinal.
« Le Gritsch? Qu'est-ce qu'il vient faire avec ?»
L'esprit habituellement pénétrant de Mustapha vacillait, incapable d'assimiler toutes les modifications nouvelles, toutes ces révélations. Il flaira encore un piège. Comprenant que le secrétaire d'État s'était arrêté pour recevoir une réponse, le grand inquisiteur dit doucement
« Les autorités militaires basées sur Hyperion ne peuvent-elles pas s'en occuper, Simon Augustino ?»
Les bajoues du cardinal Lourdussamy ondulèrent lorsque sa grosse tête fit signe que non.
« Ce n'est pas sur Hyperion que le démon a reparu, Domenico. »
Mustapha marqua le choc. « Je sais par l'interrogatoire du caporal Key que le monstre est apparu sur le bosquet de Dieu il y a 4 ans standard, apparemment pour s'opposer au meurtre de l'enfant appelé Aîné. Afin d'obtenir cette information, j'ai dû organiser la fausse mort et l'enlèvement de Key après sa réaffectation dans la flotte de la Pax.
Le savent-ils? Et pourquoi me le dire maintenant?
Le grand inquisiteur attendait toujours que la lame métaphorique tombe sur son cou très réel.
« Il y a 8 jours standard, » continua Lourdussamy, « une créature monstrueuse qui pouvait seulement être le Gritsch est apparue sur Mars. Le nombre de morts, la vraie mort, car la créature arrache les cruciformes des corps des victimes, est très élevé. »«
Mars, »
répéta sottement le cardinal Mustapha. Il se tourna vers le Saint-Père, s'attendant à une explication, un conseil, ou même à la condamnation qu'il craignait, mais le pontife examinait les bourgeons d'un rosier. Derrière lui, le père Farel fit un pas en avant, et le grand inquisiteur lui fit signe de reculer.
« Mars !» répéta-t-il.
Il ne s'était pas senti aussi stupide et mal informé depuis des dizaines d'années, peut-être des siècles. Lourdussamy sourit.
« Oui. » L'un des mondes terraformés du système de l'ancienne Terre. Avant la chute, la Force l'utilisait comme QG, mais dans la Pax, ce monde n'a guère d'importance et ne sert à rien. Trop éloigné. Il n'y a pas de raison que vous le connaissiez, Domenico.
Je sais où est Mars,
répliqua le grand inquisiteur d'un ton plus cinglant qu'il n'en avait l'intention.
Simplement, je ne comprends pas comment le Gritsch a pu s'y rendre.
Ni par l'enfer de Dante, en quoi ce fait pourrait me concerner, ajouta-t-il mentalement. L'Ourdusami hocha la tête.
Il est vrai qu'à notre connaissance, ce démon n'a jamais quitté le monde d'Hyperion. Mais il ne peut pas y avoir le moindre doute. Cette terreur s'est déchaînée sur Mars. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence et l'archevêque Robson a personnellement envoyé une requête à sa sainteté pour demander de l'aide.
Le grand inquisiteur se frotta la joue et hocha la tête, inquiet.
La flotte de la Pax.
On va leur envoyer des marines et des gardes suisses, poursuivit l'Ourdusami. Nous espérons qu'ils maîtriseront et ou détruiront cette créature.
Ma mère m'a appris à ne jamais faire confiance à quelqu'un qui emploie l'expression « et ou », pensa Mustapha.
« Bien sûr, » dit-il tout haut. « Je vais dire une messe à cette intention. »
L'Ourdusami sourit. Le Saint-Père, penché sur le petit arbre chétif, leva les yeux.
« Justement, »
répliqua l'Ourdusami, et dans ces trois syllabes, Mustapha entendit le bruit que ferait un chat suralimenté bondissant sur la souris infortunée qu'il était.
« Nous sommes d'accord là-dessus. C'est plus une affaire de foi que de force de la flotte. Le Gritch, et ce fait fut révélé au Saint-Père il y a plus de deux siècles, est véritablement un démon, peut-être le principal agent du ténébreux. »
Mustapha ne put que hocher la tête.
Nous estimons que seul le Saint-Office est correctement formé, équipé et préparé, à la fois spirituellement et matériellement, au sauvetage des malheureux habitants, hommes, femmes et enfants de Mars.
Que j'aille me faire foutre,
pensa le cardinal John Domenico Mustapha, grand inquisiteur et préfet de la Congrégation de la Doctrine de la Foi, appelée aussi Suprême Congrégation pour la Sainte Inquisition de l'erreur hérétique. Il offrit automatiquement un acte de contrition mentale pour son obscénité.
« Je vois, »
dit tout haut le grand inquisiteur, loin de tout voir, mais souriant presque de l'ingénuité de ses ennemis.
« Je vais immédiatement nommer une commission. Non, non, Domenico, »
dit sa sainteté en s'approchant assez pour lui toucher le bras.
« Vous devez partir immédiatement. Cette matérialisation du démon menace le corps du Christ tout entier. »«
Partir ?»
dit Mustapha d'un air stupide.
« Un astronef classe archange de la flotte, l'un de nos plus récents modèles, a été réquisitionné, »
reprit brusquement l'Ourdusami.
« Il emportera 28 membres d'équipage, mais vous pourrez amener 21 personnes choisies parmi votre propre personnel et votre service de sécurité. 21 sans vous compter, bien sûr. »«
Bien sûr, »
dit le cardinal Mustapha, et il sourit.
« Bien sûr. » »«
Au moment même où nous parlons, la flotte de la Pax est en train de se battre contre les agents incarnés de Satan, les extros, »
gronda l'Ourdusami.
« Mais cette menace démoniaque doit être confrontée et défaite par le pouvoir sacré de l'Église elle-même. »«
Bien sûr. » »«
Mars, » pensa le grand inquisiteur, « le furoncle le plus éloigné sur le cul de l'univers civilisé. Il y a 300 ans, j'aurais pu appeler sur le canal large, mais aujourd'hui, je vais perdre le contact aussi longtemps qu'ils me garderont là-bas. Pas d'information, aucun moyen de diriger mes gens. »
Et le Gritch,
si le monstre est toujours contrôlé par l'intelligence ultime, blasphématoire du centre, pourrait être programmé pour me tuer dès mon arrivée.
Super. Bien sûr,
répéta-t-il.
Saint-Père, quand dois-je partir? Si je pouvais disposer de quelques jours ou de quelques semaines afin de laisser les affaires courantes du Saint-Office en ordre,
le pape sourit et serra le haut du bras de Mustapha.
« Domenico, l'archange vous attend aujourd'hui même, vous et votre petit contingent. 6 heures, ce serait le mieux, m'a-t-on dit. »
« Bien sûr, »
dit le cardinal Mustapha pour la dernière fois. Il mit genoux en terre pour baiser l'anneau papal.
« Que Dieu vous accompagne et vous protège, »
dit le Saint-Père en touchant le front courbé du cardinal. Puis il prononça la bénédiction plus rituelle en latin. Le grand inquisiteur, baisant l'anneau et goûtant le froid acide de la pierre et du métal, sourit de nouveau intérieurement de l'intelligence de ceux qu'il avait estimés moins malins que lui et qu'il avait cru manœuvrer. Le père capitaine de Soya ne put parler au sergent Grégorius que quelques minutes avant le premier saut du Raphaël au-delà des confins. Ce n'était qu'un saut d'entraînement jusqu'à un système inexploré à 20 années-lumière derrière le grand mur. Comme Epsilon Eridani, l'étoile de ce système était un soleil de type K. Contrairement à la naine orange d'Eridani, il s'agissait d'une géante semblable à Arcturus. Le corps expéditionnaire Gédéon se translata sans incident. Les nouvelles crèches automatisées qui effectuaient la résurrection en 2 jours fonctionnèrent sans aucune défaillance, et le 3e jour vit les 7 archanges décélérer dans le système de la géante pour jouer au chat et à la souris avec les 9 vaisseaux-torches de classe Hawking qui les y avaient précédés après plusieurs mois de voyage en déficit de temps. On avait ordonné aux vaisseaux-torches de se cacher dans le système. La tâche des archanges consistait à les repérer et à les détruire. 3 des vaisseaux-torches, très loin dans le nuage d'Oort, flottaient parmi les protocomètes, toutes propulsions coupées, leur com silencieux, leur système interne maintenu au niveau opérationnel le plus bas. L'Uriel les repéra à une distance de 0,86 années-lumière et leur lança 3 hypercinétiques Hawking virtuels. De Soya, qui se tenait avec les 6 autres capitaines dans la sphère tactique, avait le soleil du système au niveau de la ceinture et, à hauteur de poitrine, les traînées enflammées, longues de 200 km, des propulseurs à fusion des 7 archanges, tels des éraflures de diamants sur du verre noir. Il regarda les holos apparaître comme un brouillard, se former et se dématérialiser dans le nuage d'Oort, traqua les missiles chercheurs hypercinétiques théoriques lorsqu'ils surgirent de l'espace de Hawking, chercha les vaisseaux-torches en sommeil et enregistra 2 destructions virtuelles et une grave avarie certaine à haute probabilité de destruction sur le tableau d'affichage tactique. Ce système n'avait pas vraiment de planète, mais 4 des vaisseaux-torches s'étaient tapis en embuscade dans le disque de concrétion planétaire sur le plan de l'elliptique. Le Rémiel, le Gabriel et le Raphaël engagèrent le combat à longue distance et affichèrent leur destruction avant que les senseurs des vaisseaux-torches aient pu détecter la présence des archanges intrus. Les 2 derniers vaisseaux-torches, cachés dans l'héliosphère de l'étoile géante de type K, se protégeaient derrière des champs de confinement de classe 10 et évacuaient la chaleur par des monofilaments 500 000 km de long. La flotte de la Pax faisait plus que froncer les sourcils devant ce genre de manœuvre lors des simulations de combat, mais De Soya ne put s'empêcher de sourire de l'audace des commandants des 2 vaisseaux. C'était le genre de chose qu'il aurait pu tenter 10 années plus tôt. Ces derniers vaisseaux-torches jaillirent de l'étoile K en accélération élevée, leur champ évacuant la chaleur sur le spectre visible, telles 2 proto-étoiles éclatantes chauffées à blanc, crachées par leurs parents massifs, et essayèrent de rattraper le corps expéditionnaire qui maintenant traversait le système aux 3/4 de la vitesse de la lumière. L'archange le plus proche, le Sariel, les détruisit tous 2 sans détourner 1 ergue de puissance du champ de classe 30 que l'archange devait maintenir à 100 clics de sa proue afin de s'ouvrir un chemin dans le système encombré de molécules. Des vitesses aussi terribles prélèveraient un terrible tribut si les champs faiblissaient ne serait-ce qu'un instant. Puis, tandis que l'amiral Aldikakti grommelait quelque chose à propos d'une destruction probable dans le nuage d'Oort, le corps expéditionnaire décéléra fortement en traçant un grand arc autour de la géante de type K, de sorte que tous les commandants et les seconds puissent se rencontrer dans l'espace tactique pour discuter de la simulation avant que les vaisseaux de Gédéon se translatent dans l'espace extro. De Soya estimait que ces conférences engendraient toujours un orgueil démesuré. 30 d'hommes et de femmes en uniforme de la Pax, dressés comme des géants, ou dans ce cas assis comme des géants, puisqu'ils se servaient du plan de l'écliptique comme d'une table virtuelle, discutant de destruction, de stratégie, de défaillance d'équipement et de taux d'acquisition pendant que le soleil de type K flamboyait au centre de l'espace et que les vaisseaux glorifiés se déplaçaient sur leurs lentes ellipses newtoniennes comme des braises brûlant sur du velours noir. Durant cette conférence de 3 heures, on décida que la destruction probable était inacceptable et qu'ils auraient dû tirer au moins 5 hyper-K pilotés par des IA sur des cibles aussi difficiles récupérant tous les missiles inutilisés après que les trois destructions furent certaines. S'ensuivit alors une discussion sur les équipements non réutilisables, les taux de tir et les équations destruction-économie-restriction dans une mission telle que celle-ci où il était impossible de se réapprovisionner. On se décida pour la stratégie suivante. Un des archanges entrerait dans chaque système 30 minutes lumière avant les autres pour attirer toutes les investigations des senseurs et des CEM, pendant qu'un autre traînerait à 1 heure lumière derrière, épongeant ainsi tous les probables. Après un jour de 22 heures passées en grande partie au poste de combat, où tous les membres d'équipage luttaient contre des accès d'émotion post-résurrection, les coordonnées d'un saut vers un système connu pour être infesté d'extro furent transmises par l'Uriel sur le récepteur Méga. Les 7 archanges accélérèrent vers leur point de translation, et le père capitaine de Soya fit des rondes pour bavarder avec son nouvel équipage et border tout le monde. Il garda le sergent Grégorius et ses 5 gardes suisses pour la bonne bouche. Un jour, durant leur longue poursuite de la petite fille appelée Aînée dans le bras spiral de la galaxie, après avoir passé des mois ensemble à bord de l'ancien Raphaël, le père capitaine de Soya décida qu'il en avait assez d'appeler le sergent Grégorius ainsi, et il chargea sur son persoc sa fiche signalétique afin d'apprendre son prénom. À sa grande surprise, De Soya découvrit que le sergent n'en avait pas. L'énorme sous-off avait atteint sa majorité sur le continent septentrional du monde marécageux de Patoufa, dans une culture guerrière où tout le monde naissait avec 8 noms, dont 7 noms de faiblesse, et où seuls ceux qui survivaient aux 7 épreuves obtenaient le privilège d'abandonner leur nom de faiblesse pour ne porter plus que leur nom de force. L'IA du vaisseau dit au père capitaine qu'environ 1 guerrier sur 3 000 seulement réussissait à se débarrasser de tous ces noms de faiblesse. L'ordinateur n'avait pas d'informations sur la nature de ces épreuves. De plus, comme le montrait son dossier, Grégorius avait été le seul Écossais maori de Patoufa à devenir un marine décoré auquel on proposa ensuite d'entrer dans le corps d'élite des gardes suisses. De Soya avait toujours eu l'intention de questionner le sergent sur la nature des 7 épreuves, mais il n'eut jamais le courage de le faire. Ce jour-là, lorsque De Soya descendit à coups de pied le puits de lévitation en apesanteur et franchit l'iris du carré, le sergent Grégorius parut si heureux de le voir qu'il sembla sur le point d'enserrer le capitaine dans une étreinte d'ours. Mais le sergent se contenta de coincer ses pieds nus sous une planche, claqua des doigts pour attirer l'attention de ses hommes et cria « Arde à vous !» dans la salle de garde. Ses 5 soldats lâchèrent ce qu'ils étaient en train de faire, lire, nettoyer ou démonter leurs armes, et essayèrent de fourrer leurs orteils sous la cloison. En 1 seconde, scripteur, magazine, couteau pulsant, blindage d'impact et lance à énergie démontés flottèrent dans le carré. Le père capitaine de Soya salua le sergent d'un signe de tête et inspecta les 5 membres du commando, 3 hommes, 2 femmes, tous terriblement, terriblement jeunes. Ils étaient également maigres, musclés, parfaitement adaptés à la pesanteur et visiblement entraînés à l'art de la guerre. Rien que des vétérans, qui avaient dû se faire suffisamment remarquer par leur courage pour être intégrés à cette mission. De Soya lut dans leurs yeux une impatience de se battre qui l'attrista. Au bout de 2 minutes d'inspection, de présentation et de bavardage de commandant à commando, De Soya fit signe à Grégorius de le suivre et, se projetant d'un coup de pied, il traversa l'iris arrière pour pénétrer dans la salle des tubes de lancement. Quand ils furent seuls, le père capitaine de Soya tendit la main. « C'est sacrément bon de vous revoir, sergent. » Grégorius lui serra la main et sourit d'une oreille à l'autre. Le visage carré, balafré et les cheveux courts du costaud n'avaient pas changé. Son sourire était toujours aussi large, aussi chaleureux.
« Sacrément bon de vous revoir, père capitaine. Depuis quand les curés se mettent-ils à sortir des sacrilèges ?»«
Depuis que j'ai été promu au commandement, sergent. » « Comment ça va ?»«
Très bien, mon capitaine. De mieux en mieux. » »«
Vous avez participé à l'incursion de Saint-Anthony et au saillant du Sagittaire. Étiez-vous présent quand le caporal Key est mort ?»
Le sergent Grégorius se frotta le menton.
« Négatif, mon capitaine. »
J'étais bien au Saillant il y a 2 ans, mais j'ai jamais vu qui. J'ai entendu dire que son transport avait été descendu, mais je l'ai jamais vu. J'avais 2 autres amis à bord, mon commandant.
Désolé. Tous deux flottaient maladroitement près d'une des nacelles de stockage d'Hyperca.
Le père capitaine s'accrocha à une poignée et s'orienta de façon à regarder Grégorius dans les yeux.
L'interrogatoire s'est bien passé, sergent ?
Grégorius haussa les épaules.
Ils m'ont gardé quelques semaines sur Passem, mon capitaine. N'arrêtaient pas de me poser les mêmes questions d'une manière différente. Ils avaient pas l'air de me croire quand je leur disais ce qui était arrivé sur le bosquet de Dieu. La femme démon, le Gritch. Ils ont fini par se fatiguer de me demander des choses, alors ils m'ont rétrogradé caporal et m'ont renvoyé.
De Soya soupira.
Je suis désolé, sergent. Je vous avais recommandé pour une promotion et un commandement.
Il gloussa d'un air piteux.
Cela vous fait une belle jambe. Nous avons eu de la chance tous les deux de ne pas être excommuniés, puis exécutés.
Oui, mon capitaine,
dit Grégorius en jetant par le hublot un coup d'œil au champ d'étoiles en mouvement.
Ils n'étaient pas contents de nous, ça c'est sûr.
Il regarda de Soya.
Et vous, mon capitaine? J'ai entendu dire qu'ils vous avaient enlevé votre commandement.
Le père de Soya sourit.
On m'a rétrogradé prêtre de paroisse.
Sur un sale monde désertique sans eau, je l'ai entendu dire, mon capitaine. Un endroit où on vend la pisse, dit Marc la bouteille.
Exact,
répondit de Soya souriant toujours.
Madre de Dios. C'est ma planète natale.
Oh merde, mon capitaine,
dit le sergent Grégorius en serrant les poings d'embarras.
Je voulais pas vous manquer de respect, mon capitaine. Je voulais pas.
De Soya posa la main sur l'épaule du costaud.
Vous ne m'avez pas manqué de respect, sergent. Vous avez raison. Là-bas, on vend la pisse, pas 10 marks la bouteille, mais 15.
Oui, mon capitaine,
dit Grégorius dont la rougeur noircit encore plus la peau sombre.
Et sergent?
Oui, mon capitaine.
Ce sera 15 je vous salue Marie et 10 notre père pour cette remarque scatologique. Je suis toujours votre confesseur, vous savez.
Oui, mon capitaine.
L'implant de De Soya le picota au moment même où les communicateurs du vaisseau se mettaient à carillonner.
Translation dans 10 minutes, dit le père capitaine. Fourrez vos poussins dans leur crèche, sergent. Le prochain saut, ce sera un vrai.
Oui, oui, mon capitaine.
Le sergent donna un coup de pied pour traverser l'iris, mais s'arrêta juste au moment où celui-ci s'ouvrait.
Père capitaine.
Oui, sergent.
C'est juste une intuition, mon capitaine,
dit le garde suisse, le front plissé.
Mais j'ai appris à me fier à mes intuitions.
Moi aussi, sergent. Qu'y a-t-il?
Surveillez vos arrières, mon capitaine,
dit Grégorius.
Je veux dire, c'est rien de précis. Mais surveillez vos arrières.
Le père capitaine de Soya attendit que Grégorius soit rentré dans le carré et que l'iris se soit refermée avant de se lancer d'un coup de pied dans le puits de lévitation pour rejoindre sa propre couche mortuaire et sa crèche de résurrection. Le système de Passem était bondé de cargos du Mercantilus, de vaisseaux de guerre de la flotte, d'habitats luxueux, d'astéroïdes terraformés et rassemblés comme à Castel Gandolfo, de cités orbitales à loyer modéré pour les millions d'individus désireux de vivre près du centre du pouvoir, mais trop pauvres pour payer les tarifs exorbitants de la planète, et de la concentration la plus élevée d'astronefs privés du monde connu. À tel point que lorsque Kenzo Isozaki, le PDG et président du conseil exécutif de la Ligue pancapitaliste des organismes du commerce interstellaire catholique indépendant, souhaitait être absolument seul, il lui fallait réquisitionner un yacht et voyager sous forte accélération pendant 32 heures jusque dans l'anneau extérieur des ténèbres de l'espace, loin de l'étoile de Passem. Même choisir un vaisseau avait posé des problèmes. Le Mercantilus de la Pax gardait une petite flotte de luxueux yachts pour ses cadres, mais Isozaki dut admettre qu'en dépit de leurs tentatives les plus poussées pour éviter toute écoute indiscrète sur les vaisseaux, aucun d'eux ne s'avérait sûr. Pour ce rendez-vous, il avait envisagé de dérouter l'un des cargos du Mercantilus qui faisait la navette sur les voies commerciales entre les essaims orbitaux, mais il croyait ses ennemis, le Vatican, le Saint-Office, les services secrets de la flotte de la Pax, l'Opus Dei, ses rivaux au sein du Mercantilus et d'innombrables autres, capables de mettre sur écoute tous les vaisseaux de la vaste flotte de commerce de sa société. Pour finir, Kenzo Isozaki se déguisa, alla sur les quais publics du Thor acheter un ancien astéroïde chaland et ordonna au Persoc de son IA illégal de le piloter au-delà de la zone feu de camp de l'écliptique. En cours de route, son vaisseau fut 6 fois interpellé par les patrouilles et les stations des forces de sécurité de la Pax, mais le convoyeur était en règle, il y avait des rochers là où il se rendait, criblés de trous de mine bien sûr, mais constituant une destination encore vraisemblable pour un prospecteur désespéré. Et il passa sans subir d'interrogatoire personnel. Isozaki trouvait tout cela mélodramatique. En outre, c'était une perte de temps, denrée si précieuse pour lui. Il aurait reçu le contact dans son bureau, à bord du Thor, si celui-ci avait été d'accord. Mais le contact avait refusé, et Isozaki devait reconnaître qu'il se serait traîné jusqu'à Aldébaran pour le rencontrer. 32 heures après avoir quitté le Thor, le chaland laissa son champ de confinement interne, vida son réservoir sous jet élevé et réveilla Isozaki. L'ordinateur du vaisseau était trop stupide pour faire autre chose que lui fournir ses coordonnées et des affichages sur les rochers du coin. Mais l'interface du Persoc IA illicite balaya toute la zone consacrée au vaisseau, éteint ou actif, et décréta que cette sphère du système de Passem était vide.
« Comment a-t-il fait pour venir si tu ne vois pas de vaisseau ?»
murmura Isozaki.
« On ne peut arriver autrement qu'en astronef, monsieur, » dit l'IA, « à moins qu'il n'habite ici, ce qui semble improbable, puisque... silence !»
ordonna Kenzo Isozaki. Il resta dans la pénombre imprégnée d'odeurs de lubrifiant de la bulle de commandement et étudia l'astéroïde situé à un demi-clic. Le chaland et le rocher avaient harmonisé leur vitesse angulaire. Aussi, c'était le champ d'étoiles familier du système de Passem qui semblait tournoyer derrière le rocher criblé de trous de mines et de cratères. Hors de l'astéroïde, il n'y avait rien. N'était le vide absolu, les radiations dures et le silence glacé. Soudain, on frappa à la porte extérieure du sas.